Radio Kapi. Oh, Kapi.
Merci encore une fois d'être avec nous et sans plus tarder, voici la charpente de ce journal. Le chef de bureau de la MONUSCO Bounia condamne les attaques des représailles enregistrées ces derniers jours dans les territoires de Djougou en Ituri. Marc Carnassoro, vous allez l'entendre, attire l'attention des groupes armés actifs dans ce territoire que la MONUSCO travaillera avec les autorités congolaises pour poursuivre tous les auteurs des crimes là-bas. Les femmes du Nord Kivu demandent à leurs collègues nominées et reconduites dans le gouvernement Samalou Kondé 2 d'être leurs vraies ambassadrices. Actrice politique de ces milieux, Adèle Bazizané, parlant en nom des femmes déplacées, demande à ces femmes ministres d'évoquer avec force la question de l'insécurité à l'Est. L'invité de ce journal est Ege Mapati, secrétaire de cabinet du ministre des Finances, qui affirme que le programme local de développement des 145 territoires évolue très bien dans les territoires de Beni, au Nord Kivu. Un contrôle citoyen est mené pour s'imprégner de la bonne exécution de ses travaux par le bureau central de coordination BCECO, attaché au ministère des Finances. C'est un réel plaisir d'être avec vous en ce dimanche 26 mars 2023. Jean-Claude Tiala sur la technique et devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Bonjour, bienvenue et bonne écoute. Le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri condamne les attaques de représailles enregistrées ces derniers jours dans les territoires de Djougou qui ciblent des civils et détruisent des maisons d'habitation. C'est ce qu'a déclaré hier samedi à Bounia Marc Carnassoro dans un entretien exclusif avec Radio Kapi. Certains combattants armés se préparerait pour attaquer la paisible population dans les régions de Drodro, Lobi et Largou et celle de Bambou, Axe Mungwalou, a dit le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri. Marc Carnassoro est au micro de Martial Kizabiamungu.
Nous sommes dans un cycle d'attaques représailles de part et d'autre. Je rappelle encore que, d'abord d'une part de la part du groupe Codeco, des attaques sur des sites. Au moment même où je vous parle du regroupement d'un certain nombre de combattants au niveau de Massumbuko, Blukwa, Acha, autour de Drodro, nous entendons aussi qu'il y a des attaques qui sont envisagées sur Lobi, Djissa, Largou, dans les heures à venir. De l'autre côté, nous avons d'autres groupes comme Zahir qui, de leur côté donc, du côté de Kilo, du côté de Mungwalou, se lient donc à des attaques sur les populations civiles, à des attaques sur les sites miniers où ils prennent en otage les civils, où ils se livrent donc à des actes qui sont, qu'on peut qualifier de crimes ici. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire à l'ensemble des groupes armés, Codeco, Zahir, quel que soit le nom qu'ils se donnent, que la MONUSCO travaillera aux côtés du gouvernement national, aux côtés du gouvernement provincial, aux côtés des institutions judiciaires pour que tous ceux qui sont en train de commettre ces crimes-là en répondre devant les juridictions compétentes.
$100 contre un bandit armé et son arme. C'est la nouvelle opération lancée dans la commune rurale de Mangina et ses localités voisines en territoire de Beni au Nord Kivu. Selon son initiateur, le député provincial Alain Siwako, c'est une façon d'impliquer la population dans sa propre sécurisation en collaboration avec les services de sécurité, notamment ceux de la commune de Mangina, mais aussi des localités telles que Mabalako, Kianzaba, Munuzo, Kantine, Unkoyo. Vendredi dernier déjà, des jeunes de Mangina ont mis la main sur un bandit armé avec son arme et ont été récompensés. L'initiateur de cette initiative, le député provincial Alain Siwako, est au téléphone de Marc Marofimbo.
Depuis le mois de janvier 2023, les hommes à main armée ont pris pour cible la commune de Mangina, la localité de Batangi Bingo, mais aussi les groupements Baswa Madiwe, c'est-à-dire Mabalako et Kantine. C'est pourquoi nous avons initié la vigilance communautaire avec la jeunesse de toutes ces entités du territoire de Beni, parce qu'au moins chaque jour, on comptait l'incursion des hommes à main armée qui entraient dans les ménages pour piller les ménages et avant. Avant-hier, la jeunesse de la commune de Mangina a mis la main sur un bandit avec une arme et c'était de notre devoir de respecter nos engagements, de donner les $100. Et donc, l'opération continue jusqu'au mois de décembre 2023. Nous sensibilisons la jeunesse, toute la population. Nous devons faire notre sécurité aux côtés des services de sécurité.
Les femmes du Nord Kivu demandent à leurs collègues nominées et reconduites dans le gouvernement Samalou Kondé II d'être leurs vraies ambassadrices en évoquant avec force essentiellement la question de l'insécurité à l'Est. Par là, au nom des femmes déplacées, Adèle Bazizané, actrice politique du Nord Kivu, estime que la femme ayant un esprit maternel pourra bien gouverner. De ces faits, elle doit redorer l'image d'antan de la femme politique congolaise. Par conséquent, elle leur demande de mouiller leur blouse pour rayonner cette image en vue de l'émergence et la reconstruction de la RDC. Adèle Bazizané est avec Denise Lukeso.
De toutes les femmes qui viennent d'entrer au gouvernement, qu'elles doivent nous aider à redorer l'image de la femme congolaise en étant de bonnes gestionnaires, en montrant à la face du monde de quoi la femme congolaise elle est capable. À toutes ces femmes-là, je tiens à leur demander encore de mouiller leur blouse et leur pagne pour que une fois évaluation, il y aura que les Congolais sachent que la femme a des atouts, des capacités pour gouverner, pour conduire une société. Et surtout que la femme est caractérisée par cet esprit maternel. Elles doivent nous aider à contribuer, à batailler fort, à être des bonnes conseillères au niveau du gouvernement pour que, pour nous les femmes de l'Est, que nous puissions recouvrer d'abord la paix. Qu'elles soient nos ambassadrices pour parler haut de la question de l'insécurité ici au Nord Kivu. Nous voudrions que l'image d'attente qu'on avait sur la femme politique, cette image puisse changer. Que ce soit des femmes qui ont des bonnes moralités, qui savent gérer, et des femmes qui vont apporter leurs atouts pour l'émergence et la reconstruction de ces pays.
Ici à Kinshasa, la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves a procédé vendredi dernier à la remise des trophées Marthe Kasalou, femme d'honneur pour sa troisième édition. Parmi les nominés, il y a l'ex-première dame de la Tanzanie, Jeannette Magufuli, Colette Senghor, l'épouse de Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Viviane Dalo, du pasteur de l'église Philadelphie, et Léonie Suzanne Mukai Amukeng, épouse du docteur Soulou du centre hospitalier Nganda. Un événement qui est organisé sous la houlette du ministère du genre et celui de la culture. D'autres détails avec vous, Billy Van Lutumba.
Initiative de José Godé Kayembe, président de l'ISADEL, le trophée Marthe Kasalou prime dans sa conception les épouses des personnalités ayant marqué positivement l'humanité.
Ce trophée a été exceptionnellement mis en place pour reconnaître les mérites des épouses qui ont accompagné les grands hommes dans leur vision. Les visions qui ont contribué à l'évolution de l'humanité. Au regard de la justice que les femmes vivent, parce que généralement on dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais malheureusement, lorsqu'il faut récompenser, on n'a jamais pensé à cette grande dame qui a contribué à l'édification de la grandeur du grand homme. Il faut absolument reconnaître au niveau international que lorsque l'homme est élevé, c'est grâce à la femme. Donc il faut que ses droits soient reconnus à la femme du moment de la reconnaissance de l'élévation de l'homme.
Comme lauréate, l'ex-première dame tanzanienne, Jeannette Magufuli, après l'expression des gratitudes pour ce trophée, a lancé un message aux femmes et jeunes filles.
Le rôle que nous jouons ici et là dans la conduite de nos états, nous ne pouvons pas oublier de bien remplir notre rôle de mère en famille parce que la femme, c'est elle la gardienne de la famille, la protectrice de la famille, mais aussi de tous les temps en général familial.
La ministre de la Culture a pour sa part révélé qu'un processus est en cours pour l'inscription et la reconnaissance du trophée Marthe Kasalou comme patrimoine immatériel de l'UNESCO.
EPSIJ, autrement dit Parti Socialiste pour l'intégrité et la justice, fondé depuis novembre 2021, c'est le nouveau parti politique présenté au public hier samedi à Kinshasa. Son fondateur, le professeur Grégoire Bakandeja, indique que le parti a pour vision la construction progressive d'une économie sociale de marché, la redéfinition du droit de la propriété du sol et du sous-sol, principalement dans la gestion de l'exploitation des ressources naturelles et une armée nationale moderne pour la défense de l'intégrité du territoire national. Ce parti indique ses initiateurs s'insurgent contre les guerres économiques d'agression imposées à la RDC pour s'approprier de ses richesses. Le professeur Grégoire Bakandeja parle des visées de cette formation politique au micro de Billy Ivan Lutumba.
Notre spécificité, c'est de tenir compte des valeurs fondamentales lorsqu'on gère un État, la justice, la démocratie, l'intégrité, lorsqu'on va dans la gestion, et le service à la communauté. On va insister là-dessus. Si les gens nous font confiance, nous militerons dans les chambres législatives pour qu'on atteigne l'objectif final des permettant le développement intégral de l'homme. Nous ne venons pas pour des solutions miracles, nous venons pour contribuer à faire changer les choses pour que la qualité de la gouvernance soit changée pour l'intérêt de nos populations. Ce qui ne semble pas être le cas. Les 30 dernières années, nous avons eu des gouvernances atypiques en matière financière parce qu'un État, c'est d'abord l'organisation et la gestion des ressources disponibles. Lorsque ces ressources sont perçues, il faut savoir les redistribuer équitablement. Donc, nous allons militer pour qu'il y ait une redistribution des richesses et des revenus pour l'intérêt de la communauté.
Et vous sortez pendant une année électorale pour appuyer le chef de l'État ou bien vous êtes...
Si la vision du chef d'État correspond à notre propre vision, nous serons prêts pour le soutenir. Moi, je le soutiens déjà avant que je ne crée le parti, parce qu'il est dans le cadre de la vision qui est qu'un quart de mon parti.
Cofondé avec le professeur Upio Kakurawapol, qui assure le secrétariat général, et maître Alexis Kaziota, le PSIJ propose entre autres en matière de sécurité et défense nationale le service militaire obligatoire à la fin des études secondaires et en matière de justice un référendum en vue de faire adopter une nouvelle constitution de la République. Sous un autre registre, la loi Tiani continue à faire parler d'elle. L'ancien gouverneur de l'Équateur, Tony Cassius Bolamba, prévient l'Union sacrée, sa propre famille politique, sur le danger que représente cette loi sur l'unité et la cohésion nationale. Dans une conférence de presse organisée ce week-end à Kinshasa, Tony Cassius Bolamba estime que l'on doit définitivement mettre fin à ces velléités ségrégationnistes de l'auteur de cette proposition de loi. Il estime que Noël Tiani, initiateur de cette loi, qui est lui-même un citoyen américain, n'est pas habilité à proposer une telle loi. On écoute Tony Cassius Bolamba au micro de Radio Kapi.
Tout ce que les gens peuvent nous proposer doit être bien suivi et nous devons très regardant. Après nos recherches, nous voyons que M. Tiani, qui avait abandonné sa nationalité congolaise au détriment d'une autre nationalité, se réveille un beau jour pour mener un projet de loi dans notre Assemblée nationale afin de discriminer certains Congolais. Raison pour laquelle, lorsque nous, qui sommes très alertés de l'avancement du complot de balkanisation dans notre pays, voyons ces genres de pratiques nous arriver, nous devons stopper ça et demander à nos autorités judiciaires de l'entendre et de connaître ses vraies motivations. Moi, je suis un membre de Lyon Sacré. Vous savez, lorsque une situation vous arrive, essayez toujours de voir ça dans plusieurs facettes. Qu'est-ce qui ne me dit pas que ces projets de loi que l'on nous amène pour discriminer, pour écarter une couche des Congolais qui ont des parents non congolais ne viseraient pas aussi notre candidat de 2023. Raison pour laquelle, moi, en tant qu'analyste, en tant que visionnaire, j'ai pris cette question, je l'ai tournée et contournée dans tous les sens et j'ai vu que cela peut être un piège contre notre candidat que nous allons porter. J'ai dit à nos frères et sœurs députés de faire très très attention.
La province du Nord Kivu a réalisé plus de 43,5 milliards de francs congolais de recettes propres sous la prévision de plus de 51,4 milliards, soit une réalisation de 83,05% au cours de l'exercice 2022. La révélation a été faite par le conseiller principal du gouverneur militaire en charge des finances. C'était au cours des travaux de reddition des comptes du gouvernement provincial pour l'exercice 2022 qui était à leur troisième jour hier samedi à Goma. Maître David Kamuha Musubao dit encourager cette performance. Cependant, il évoque plusieurs défis, notamment sécuritaires, auxquels la province fait face pour la maximisation de ses recettes. Ces propos ont été recueillis par la presse du gouvernorat.
Première difficulté, effectivement, d'ordre sécuritaire, puisque, comme vous le savez, nous avons perdu pratiquement toutes les recettes du territoire de Rutshuru, à la frontière de Bunagana, Ishasha, mais également les recettes d'une partie de Masisi et de Nyiragongo. Ce sont des grandes difficultés. Vous savez que la plupart des opérateurs économiques ont connu des pertes immenses, puisque leurs marchandises ont été incendiées par les ADEF, par-ci, par-là. Ce sont donc des situations qui ont pratiquement contaminé la situation économique de notre pays. Au niveau des Rutshuru, une société comme Prémédis et tant bien d'autres ne sont plus opérationnelles. Tout ça, ce sont des difficultés énormes auxquelles nous nous sommes bités et qui ont vraiment un effet immédiat sur la mobilisation des recettes. L'occasion pour nous de solliciter à la population un grand soutien au président de la République, aux élections nationales mais également provinciales pour qu'effectivement la guerre puisse être terminée, pour que nous puissions redémarrer les activités commerciales et économiques, gage d'une bonne fiscalité en province.
Actualité internationale.
Au Congo-Brazzaville, le gouvernement a réuni ses partenaires hier samedi. Objectif, trouver des fonds pour financer l'opération de démobilisation, désarmement et réinsertion DDR à destination d'au moins 7500 ex-combattants ninja du Pool, région du sud du pays qui a été le théâtre d'affrontements entre 2016 et 2017. Le coût global de l'opération est de 8,3 milliards de francs CFA, soit plus de 12,6 millions d'euros. La vice-présidente américaine Kamala Harris entame ce dimanche une tournée d'une semaine dans 3 pays africains. C'est une réaffirmation de l'intérêt américain pour le continent africain. La numéro 2 de l'exécutif américain se déplace pour assurer le suivi du dernier sommet États-Unis-Afrique tenu à la mi-décembre à Washington. Elle sera tour à tour au Ghana, en Tanzanie et en Zambie.
L'invité.
Le programme local de développement des 145 territoires évolue très bien dans les territoires de Beni, au Nord Kivu. Propos de G. Mapati, secrétaire de cabinet du ministre des Finances en séjour dans cette contrée. Il dit avoir mené un contrôle citoyen pour s'imprégner de la bonne exécution de ses travaux par le bureau central de coordination BCECO attaché au ministère des Finances. Et G. Mapati nous en parle dans cet entretien avec Sadiki Aboubakar.
Madame Ege Mapati, bonjour.
Bonjour, monsieur Aboubakar.
Vous avez mené un contrôle citoyen sur l'exécution des travaux de programme local de développement de 145 territoires, dont le territoire de Beni, bien sûr. Travaux qui sont exécutés par le BCECO, qui dépend du ministère des Finances. Qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui savoir de l'exécution de ces travaux dans le territoire de Beni?
Les PDL, Programme de développement local des 145 territoires, précisément ici à Beni, évoluent très bien. Si on peut évaluer le taux d'exécution, c'était à 70% au mois de janvier quand j'étais ici, lorsque j'ai fait le contrôle citoyen. Et je peux vous rassurer que d'ici juin-juillet, il y aura coupure des rubans. Donc on va inaugurer les centres de santé et les écoles qui constituent au fait la première phase.
Parler des centres de santé, des écoles, il y en a combien qui sont construits dans le territoire et on peut savoir à quels endroits précisément?
Il y en a 16, je peux dire.
Donc 8 écoles et 8 centres de santé.
Oui. À Kiondo, c'est l'EPE Vuira. À Kiavinyonge, il y a l'EPE Nobili Kiavinyonge. À Masimbembe, il y a l'EPE Masimbembe.
À Samangina.
Oui. À Watalinga, nous avons l'EPE Takitaki. À Kiondo, nous avons les centres de santé Kasisi. À Kiondo encore, il y a un centre de santé Kialumba. À Mangina, il y a les centres de santé Masimbembe. À Benimba, où nous avons l'épée Maké. Benimba encore, il y a l'épée Kito. À Oicha, nous avons l'épée Masosi. À Boulongo, nous avons l'EPE Busamba. Beni Mbau, nous avons les centres de santé Musuku. Oicha, centre de santé Pakanza. À Boulongo, nous avons les centres de santé Boulongo. À Rwenzori, nous avons les centres de santé Kasindi. Oui, je suis passée partout et je peux vous rassurer que les programmes de développement local des 145 territoires, précisément dans les territoires de Beni, est bien en exécution.
Ces ouvrages seront équipés ou c'est juste des bâtiments qui seront érigés et puis c'est tout?
Ça sera équipé, c'est quand même l'État congolais qui finance les travaux. Les écoles, il y aura des bancs, tout, des centres de santé, il y aura des lits et équipements, les soins nécessaires.
Au standard moderne?
Moderne, dans... oui, il y en aura.
Ça c'est la première phase, vous parlez de construction d'écoles et des centres de santé, mais il y a le problème de route de desserte agricole. Est-ce que ce sera la deuxième phase ou bien l'exécution a également commencé? Si oui, quels sont les actes qui sont concernés?
Si on parle de deuxième phase, ça ne signifie pas qu'on doit attendre que la première phase arrive à terme. Non. La deuxième phase sera lancée d'ici là. Les entreprises sont déjà sur terrain pour évaluer. Il y a les axes déjà connus pour débuter les travaux. Nous avons dans tous les secteurs, en fait, Rwenzori, Benimbaou, Chefferie des Bages, partout. Par exemple, il y a Mwenda, Kikingi, Iwanoli. Cet axe-là, c'est 25 km. De Karuma jusqu'à Kavusu, c'est 10 km. De Semli, Kinobili, c'est 24 km. Il y a Semuliki, Busega, Bundigana, Kibota, Kabalwe, Ndiva. Là, c'est 30 km. Alors, on a au total 122 kilomètres à réhabiliter.
Dans le territoire de Beni.
Dans les territoires de Beni, dans les cadres de programmes de développement des 145 territoires.
Alors, j'aimerais également épingler l'aspect sécuritaire. Plusieurs axes qui sont concernés par cette réhabilitation des routes de desserte agricole sont des axes qui sont vraiment en proie à l'insécurité à des attaques des ADF notamment. Est-ce que ça ne va pas retarder ces programmes de développement?
Avant de débuter, il y avait l'étude du millier.
Oui. Mais la situation évolue. Par exemple, la route Karuruma, c'est vraiment insécurisé ces derniers temps.
Je pense qu'il y aura les militaires qui vont devoir accompagner les entreprises qui exécuteront les travaux sur terrain.
Et j'ai ma partie. Merci.
Merci à vous, monsieur Aboubakar.
Et Gemma Paty, secrétaire de cabinet du ministre des Finances, était notre invité. C'est la fin de ce journal. Merci de continuer à le réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Capi.